Alors, avez-vous des questions dans la salle, des réactions peut-être? Alors, on va prendre une ou deux questions. On a une question? Levez. Allez-y, oui, tout à fait. Katia Basile.
Oui, ça marche. Oui, merci vraiment grandement pour votre intervention. Il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressée d'un point de vue des sujets. C'est vrai que vous avez parlé des codes, et je pense que c'est très important. Enfin, on sait tous que le code napoléonien, voilà, il est empreint de plein de choses. Mais le code pénal aussi, en fait, pendant très longtemps, les femmes et les enfants n'étaient pas punis par l'État parce que ce n'étaient même pas des sujets. Et en fait, c'était la correction paternelle, effectivement, qui punissait les femmes et les enfants dans des espaces domestiques, même pas les espaces publics de l'espace pénal qui est social. Et du coup, quand on entend les discours actuels, même masculinistes, de « on va la corriger, la punir », en fait, c'est des discours auxquels les hommes avaient droit pendant longtemps. Ils étaient, eux, d'un point de vue juridique, les correcteurs de toutes les transgressions des femmes et des enfants. Et c'est un peu toutes les résurgences qu'on a aujourd'hui. Et bref, il y a une autrice espagnole qui s'appelle Nerea Barjola qui critique beaucoup Foucault, qui n'a pas parlé de ces punitivités-là, mais que les hommes, pendant longtemps, avaient juridiquement le droit de punir et corriger les femmes et les enfants.
Bien sûr. Par exemple, il y avait le droit d'exhérédation. Le droit d'exhérédation, c'était le droit des chefs de famille de supprimer l'héritage, de déshériter un enfant s'il considérait que cet enfant n'avait pas fait ce que lui avait ordonné, c'est-à-dire s'il ne s'était pas comporté de manière hétéronomique. Ce droit d'exhérédation a disparu du code juridique, de même que le droit d'aînesse, qui était le droit de l'ancienneté. Il faut dire que dans les sociétés traditionnelles, antériorité vaut pour autorité. Nous sommes en train d'inventer une société où antériorité ne vaut plus nécessairement pour autorité. Et donc c'est bien compliqué pour les mâles et pour les vieux dinosaures que je suis, d'accepter qu'une jeune gourgandine de 15 ans ait autant d'autorité que moi.
Avons-nous une autre question? Une réaction peut-être en haut, non? Vous êtes bien sage.
Tiens, tout là-haut, là-haut.
Voilà, monsieur tout en haut. On vous apporte un micro.
Grimper 4 à 4 les marches.
Je m'exécute.
Pour une fois, c'est le fond qui pose des questions. En général, le fond est silencieux.
Je les ai sollicités aussi, c'est pour ça.
Allez-y, qui êtes-vous?
Vincent Lucantis, je suis travailleur social dans le cadre des aides éducatives à domicile. Et oui. En fait, la question que j'avais, c'était plus une réflexion générale, puisque vous disiez se placer sous l'autorité donc d'une tutelle, en effet, c'est renoncer. Et on renonce pour être protégé. L'hypothèse que je faisais, c'est que l'être humain ne cherche plus à... ne renonce plus parce qu'il ne se sent plus protégé, en définitive, que ce soit par le groupe, par la société, parce qu'il faisait, à un moment, corps institué et protection de l'individu.
Ouais, je ne suis pas... Et ne renonce plus, enfin, je vais le dire autrement, renoncer, c'est quand même ce que les travailleurs sociaux, c'est renoncer à sa toute-puissance, c'est accepter une forme d'amputation, c'est accepter que quelqu'un puisse dire quelque chose auquel vous devez, sinon vous soumettre, du moins obéir. Et donc, dans le renoncement, il y a quelque chose qui va à l'encontre de l'idéologie, de ce que moi j'appelle l'hubris de l'individu. Lubris, c'est un nom grec que j'aime beaucoup, qui revient maintenant assez souvent. Lubris, ça veut dire la démesure. Il y a dans l'individu le risque constant de la démesure, qui d'ailleurs est un risque que la société excite au dernier degré. Et donc, effectivement, c'est ce qui nous anime. Donc, dans le renoncement, qui pour moi est un acte de grandeur, car nous sommes des animaux sociaux, qu'on le veuille ou non, je dirais simplement que chez le sujet, la position du sujet quand il n'est pas content, c'est de se révolter, contre le pouvoir hétéronomique qui lui impose de faire cela. Et donc c'est la marque de sa sociabilité. Mais dans une société d'individus, l'individu ne se révolte plus comme le sujet, l'individu revendique. Il revendique qu'on le reconnaisse comme victime. Il revendique qu'on le reconnaisse comme ayant subi un préjudice. Et nous sommes dans une société de revendication qui est la marque inverse, mais qui est la même marque, enfin c'est le recto de la même médaille, qui est le lien social. Là où l'individu se révoltait contre ce qui lui était imposé, là où le sujet se révoltait contre ce qui lui était imposé, le sujet revendique d'être reconnu comme une victime. Et il y a dans ce double acte exactement la même médaille, c'est laquelle ? C'est que nous sommes fondamentalement des animaux sociaux et que notre besoin fondamental, c'est le besoin d'être reconnu des autres. Et donc, effectivement, dans une société d'individus, c'est le problématique qui nous anime.
Eh bien, merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci encore, professeur. Merci à vous pour les échanges.